Bienvenue sur Nouvel Oeil, le podcast pour ma génération, les millennials. Je suis Victoria Guillaumont, j'ai 22 ans, et je pars chaque semaine à la rencontre de personnes inspirantes qui se sont posées il y a quelques années les questions que nous, on se pose aujourd'hui. À un âge où l'on se cherche, où l'on construit son chemin, et où on se pose beaucoup de questions sur notre avenir. Alors j'espère qu'écouter le parcours et les conseils de ces personnes qui ont rêvé, osé, et qui ont de jolis messages à nous transmettre, t'aidera à avancer d'un pied plus sûr dans la vie. Si tu souhaites m'encourager dans cette aventure, n'hésite pas à laisser un petit avis sur iTunes ou sur Apple Podcasts et à en parler autour de toi. Tu peux aussi m'écrire sur le compte Instagram Nouvel Oeil et retrouver tous les épisodes sur le site www.nouveloeil-podcast.com. Je t'invite maintenant à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
Vous êtes là pour être sérieux, pour être les plus sérieux, les plus forts, les excellents. C'est vraiment tous des termes qui sont hyper anxiogènes. Ça nous met un poids sur des jeunes comme ça et ça nous donne des valeurs qu'en fait on n'a pas forcément. Moi je voulais pas être excellent, je voulais pas être le meilleur, je voulais pas sauver le monde en étant ingénieur. Je savais pas très bien ce que je voulais, mais en tout cas c'était clairement pas ça.
Pedro imaginait sa vie comme une autoroute. Linéaire, avec des étapes à suivre en étant rangé et en allant vite. Il devient polytechnicien et à la fin de son doctorat, il dit avoir voulu entamer une carrière brillante pour épater la galerie, faire plaisir à ses parents, à ses amis. Il est tombé amoureux, il a sauté à pieds joints dans le modèle classique, choisi par défaut. Il enchaînait mariage, grande maison en banlieue avec jardin et emploi très bien rémunéré. Après le décès brutal de son père, il réalise qu'être heureux au jour le jour est finalement la seule chose qui compte. Depuis, il s'accorde le droit de vivre ses rêves et est devenu photographe. Auteur du livre « Matin clair », il dépeint la société d'un ancien monde, celui de la compétitivité, de l'excellence et du toujours plus. Il nous invite à la construction d'une société qui mettrait l'accent sur ce qui nous rend vraiment heureux, le partage, la bienveillance, la générosité et le respect. Cet épisode est une petite pépite, on parle de hiérarchisation des études, d'imaginaire comme nécessité, d'injonction sociétale, de bonheur et de bienveillance.
Si ça touche ma barbe, ça va faire froche-froche. Ouais. Non, si je fais comme ça.
Non. On n'entend pas du tout.
D'accord.
Let's go.
Ouais.
Salut Pedro.
Salut Victoria.
Je suis ravie de te recevoir sur Nouvel Oeil.
Moi aussi.
On fait ça chez les éditions L'Iconoclaste, de là où a été publié à Paris, là où a été publié ton livre.
Oui.
Donc c'est très chouette, les locaux sont merveilleux.
Ouais, j'adore. C'est des très bons souvenirs.
Ah bah oui, tu m'étonnes. Oui. On va en reparler. Donc tu es auteur du livre Matin clair. Mm-hmm. Pedro, comme pour tous les invités, on va commencer par revenir à ton enfance.
Mm-hmm.
Tu as grandi entre l'Espagne et la Belgique.
Et la France.
Et la France, entre
ouais,
trois
carrément.
Pays. Elle ressemblait à quoi, ton enfance? Quelle éducation tu as reçue?
Mon père était prof de littérature, littérature française et espagnole. Donc un amoureux des livres. Et ma mère, artiste. Donc moi, j'ai grandi quand elle faisait les Beaux-Arts. Donc carrément, quand elle-même était étudiante en Beaux-Arts. Mmh. Ce qui est encore plus prenant, je trouve, encore plus puissant que lorsqu'on est un artiste établi. Donc elle était vraiment en train de boire les paroles, de boire les tableaux, les sculptures, tout ça. Et elle m'emmenait avec elle. Donc j'ai vraiment grandi dans cet univers très littéraire et artistique.
Et alors, est-ce que de baigner dans cet univers-là, ça t'a donné envie de toi aussi vivre de l'art? Est-ce que tu imaginais ton avenir dans ce milieu-là?
Non, pas du tout. J'imaginais pas du tout, et c'est un peu triste, mais je savais pas que c'était possible, en fait. Parce que ma mère, elle étudiait les beaux-arts, mais elle se commercialisait pas du tout. Donc pour moi, l'art, c'était un peu ça, quoi. C'était une passion, quelque chose qui nous anime, qui nous alimente, mais pas forcément quelque chose qui peut être un métier, comme celui de mon père, qui lui avait un métier, entre guillemets, normal de prof. Et donc, je savais pas que c'était possible. Et en grandissant, ça a pas changé, en fait. Mmh. Hein, quand on voit autour de nous, on demande vite si on a un vrai métier à côté, si un jour on dit qu'on
on
veut devenir peintre ou photographe ou quoi. Mmh. Donc, c'était quelque chose qui, moi, me passionnait. Je dessinais tout le temps, j'écrivais tout le temps. Voilà, ça restait dans le domaine du hobby, de la passion.
Et donc, quand tu avais 18 ans, comment tu imaginais la vie des grands quand tu réfléchissais à ton avenir, comment tu le percevais?
Moi, j'étais assez paumé à ce moment-là, hein, 18 ans. Enfin, j'allais dire comme tous les jeunes à 18 ans, j'en sais rien.
Pour beaucoup, je pense, oui.
Mais en tout cas, moi, déjà, je ne comprenais pas ce monde des adultes. Je ne comprenais pas... Encore aujourd'hui, je ne me sens pas adulte. Donc imagine, à 18 ans, je ne comprenais pas, moi, toutes ces contraintes, ces enveloppes qui s'empilaient sur le bureau de mon père et... Il y avait 36 trucs administratifs par seconde à gérer. Je ne comprenais pas du tout ces règles. Et donc, je me disais que je verrais bien en grandissant, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas trop. Et du coup, je m'en suis remis au bon conseil des adultes à ce moment-là, non, à 18 ans, et les conseils et la vision qu'ils avaient du monde, qui était du coup quelque chose de très linéaire, de carrière, d'étapes comme ça, sur une ligne plus ou moins tracée, avec des bonnes choses qu'on peut faire et des mauvaises. Les bonnes étant d'avoir un diplôme universitaire le plus prestigieux possible, avec les meilleures notes possibles, et puis un stage, et puis une grande boîte, et puis on évolue dans cette grande boîte. Voilà, c'est très, très tracé, et ça ne laissait pas du tout de place à l'imaginaire, au rêve, à laisser erreur, au test, au tâtonnement, aux allers-retours, aux boucles, voilà, tout ce qui est en fait la vraie vie, quoi. La vraie vie, c'est on se gourre, on essaye, on teste, on redémarre, on repart, on revient au début, voilà, tout ça.
Et d'imaginer du coup cette vie future aussi tracée, aussi linéaire, ça te stressait, ça t'angoissait, qu'est-ce que ça t'évoquait?
Eh bien, ça m'a énormément angoissé. Mais beaucoup plus tard.
D'accord. Donc,
à 18 ans, quand je pense à ça, je trouve qu'il y avait une énorme résignation, une énorme forme de résignation. À savoir que, oui, je voyais que mon père travaillait dur et de longues heures. Et oui, il avait une passion et il faisait ce qu'il aimait. Mais il y avait quand même énormément de son travail qui était très administratif et qu'il portait vraiment comme une croix. Mais comme c'était comme ça pour tout le monde, pour tous les adultes, tous les parents de mes amis, tous les adultes que je voyais autour de moi, mon père n'était pas une exception. C'était vraiment c'était comme ça comme pour tout le monde. Donc j'étais résigné comme tous les ados de mon âge à ce moment-là. Je me suis dit en fait la vie d'adulte c'est comme ça. Profitons en tout cas tant qu'on est jeune, parce qu'une fois qu'on sera adulte et qu'on sera amené à avoir un job et des enfants, ben ça va être un peu trimé jusqu'à...
C'est ce qu'on nous dit en plus. On nous dit profite tant que t'es jeune parce qu'après ça sera pas aussi simple. Après
ça va être dur. Et la vie est dure.
Ouais.
La
on
vie
nous dit est beaucoup dure. Ça fait
c'est dingue ça. Ouais. Alors qu'en fait pas du tout. Ça peut être pas du tout dur. Ça peut être génial.
Donc tu as poursuivi un schéma très classique. Tu as fait des études à Polytechnique et tu as poursuivi un parcours d'ingénieur. Et tu dis avoir toujours été éloigné de ta réelle passion, donc finalement qui est l'art, le dessin. La photographie, la peinture et l'ingénierie dans tout ça, c'est assez différent quand même. Donc est-ce que tu as entrepris dans ce milieu-là pour correspondre à ce que tes parents et à ce que la société voulait voir de toi ou comme un filet de sécurité pour te dire bon bah comme ça au moins je déborde pas, je fais comme tout le monde et tout ira bien.
Ouais.
Ou est-ce que ça te plaisait hein? Peut-être que ça pouvait aussi vraiment te plaire l'ingénierie.
Ça me plaisait pas, non, mais tout ce qui était autour me plaisait bien. En tout cas, j'ai fait des très bons amis. Je crois que ça joue beaucoup. Il y avait des très belles personnes, des gens qui étaient très stimulants. J'ai gardé toujours en parallèle cette passion de l'art, de la créativité. Donc, en parallèle, j'ai jamais cessé de dessiner, d'écrire. Pendant mes études, j'étais critique de cinéma. Pour l'UGC, j'ai fait un film d'animation, un court-métrage qui m'a pris 5 ans. D'animation par ordinateur, où j'ai fait ça tout seul pendant 5 ans. J'ai fait les beaux-arts en cours du soir. Donc, il y avait vraiment toute cette partie-là qui n'était jamais tombée. Je continuais à écrire des nouvelles, un début de roman. Voilà, c'était un peu le soir, un peu les vacances, un peu en cachette comme ça, mais ça restait une partie de moi. Ouais.
Et donc, pendant ces études, tu dis « Je ne m'étais jamais senti autant évalué, classé, étiqueté. Mais cela me rassurait, de ces résultats découlerait ma vie entière, cela déterminerait mon destin. Moi qui n'avais aucune idée de qui j'étais, ni du chemin à emprunter, tous m'avaient présenté la vie comme une carrière ou une autoroute. » C'est comme ça que tu imaginais ta vie pendant tes études, comme une autoroute?
Oui, c'est ça. C'est quelque chose de linéaire, et si on fait les bonnes étapes, comme ça, si on, dans cette route-là, si on passe par les bonnes étapes, tout se passe bien. C'est comme ça qu'on me l'avait vendu et c'est comme ça que je l'ai vu et vécu, en fait, parce que finalement, ça s'est vraiment passé comme ça jusqu'à un certain point. J'ai des bons résultats à mon bac. Du coup, j'ai pu choisir les études que mon père voulait, qui étaient les plus prestigieuses. Après, on peut parler de cette hiérarchie dans les études. On peut revenir là-dessus, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi, pourquoi est-ce que... Enfin, je peux en parler tout
bien
de suite.
Bien sûr, ouais, carrément, vas-y.
C'est un truc qui me tient à cœur. Pourquoi il y a cette hiérarchie d'études encore aujourd'hui? Et c'est un livre que je recommande, qui est écrit par Ken Robinson, qui est un pédagogue anglais très connu, qui a beaucoup milité pour un changement radical du système pédagogique classique, anglais, mais qui est le même que chez nous. Et donc, il expliquait que ce système pédagogique, il a été mis en place ou revu radicalement lors de la révolution industrielle en Angleterre, parce que lors de cette révolution industrielle, on a commencé à construire en masse des usines, et donc on a commencé à avoir en masse besoin de nouveaux profils pour toutes ces usines. Et donc, ils ont commencé à se demander comment est-ce qu'on va former les gens pour avoir les profils dont on a besoin dans cette nouvelle société, la société industrielle naissante, quoi. Et donc, de quoi ils avaient le plus besoin dans les usines? Mais c'était d'ingénieurs, de mathématiciens, d'ingénieurs pour construire les pièces, concevoir les produits, etc. Gérer tout ça, les chefs de production. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont dit, les études les plus prestigieuses, ce sera... celle dont on a le plus besoin, ce sera les ingénieurs, les scientifiques, les sciences appliquées. Et puis après ça, on va aussi avoir besoin de juristes, d'avocats pour gérer toutes ces parties-là. Donc on va quand même mettre les lettres, mais en dessous. Et puis tout ce qui est créatif, artistique, on n'a pas vraiment besoin, sauf à part un peu pour le design, etc. Mais ça, on va rester sur un niveau optionnel au mieux. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait une hiérarchie des études qui était totalement en accord avec une étape de notre histoire industrielle naissante, mais qui n'est plus du tout en accord aujourd'hui. On n'en est plus du tout là. Mais pourtant, la hiérarchie reste. Donc, aujourd'hui encore, les études d'ingénieurs, de sciences appliquées restent les études les plus prestigieuses dans l'inconscient collectif. Et les études d'art dramatique, d'art plastique, de lettres, ça reste des études qui ne sont pas très prestigieuses. Alors que ça ne colle plus du tout à la réalité. Alors que le monde du spectacle aujourd'hui, de la culture, de l'art, ça représente plus en termes de chiffres en France que l'industrie automobile, par exemple. Alors que la France se targue d'être un fleuron de l'industrie automobile, eh bien, la culture et l'art en France pèsent beaucoup plus lourd que la culture automobile. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose à revoir dans notre façon de voir les choses. Oui.
Dans l'éducation. Depuis le décès de ton papa, tu as décidé donc de suivre tes rêves et de te consacrer entièrement à l'art. Et en 2019, tu reviens sur les bancs de ton université pour annoncer un discours tout autre que ceux que tu entendais quand toi-même tu étais étudiant. Donc tu t'adresses aux nouveaux diplômés de ton ancienne université, Polytechnique, dans lequel tu invites les étudiants à évoquer la notion de bonheur plutôt que celle de réussite. Et c'est des discours qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre quand on est en fin d'études. On nous dit plus « sois meilleur que ton voisin, gagne beaucoup d'argent, impose-toi, fais grande carrière ». Pour celles et ceux qui n'auraient peut-être pas écouté ou vu ton discours, quel était le message principal que tu souhaitais transmettre à ces jeunes?
Je commençais par les mettre en garde face à un fléau qui a aujourd'hui, qui prend une ampleur que je trouve dramatique, qui est la vague de burn-out qu'il y a aujourd'hui, un peu partout, de gens qui se remettent en question, des gens qui sont épuisés, d'épuisement, de tristesse à leur travail. Et on en parle très peu, on en parle beaucoup moins que le chômage. Alors que moi, je leur disais que ce problème-là, aujourd'hui, et c'est factuel, c'est fact-checké, il a une ampleur qui est supérieure à celle du chômage. Donc, en sortant de cet auditoire avec votre diplôme, vous avez plus de chances de tomber malade à cause de votre travail que de ne pas trouver de travail. On en est là, quoi. Donc, c'est vraiment un énorme problème dont on ne parle pas du tout. Parce qu'on est dans une société qui ne met pas du tout l'accent sur toutes les choses qui nous rendent heureux. Comme tu disais, elle met plutôt l'accent sur des discours qui nous rendent malheureux. Parler de compétitivité, de sérieux, d'excellence, mais à la longue, ça rend malheureux, en fait, parce que ça nous sépare les uns des autres, ça nous individualise, ça nous met dans notre coin, ça nous rend agressifs, ça nous rend rancuniers, jaloux. En tout cas, il y a plein de sentiments qui ont besoin d'être compensés par des émotions qui nous mettent en joie, qui contribuent à notre bien-être, comme le partage, la solidarité, la bienveillance, l'ouverture, la générosité. Et tout ça, on n'en parle pas du tout. Et donc, c'est normal, finalement, qu'aujourd'hui, il y ait tant de personnes. La quête de sens, c'est fondamental. Et on n'en parle pas du tout, ni dans les écoles, ni dans les slogans politiques, ni dans les pubs, nulle part. Moi, j'avais eu ces discours-là, comme tu disais, en début d'études, qui se focalisaient sur tout ça, sur le fait que les ingénieurs, c'est l'élite, à nouveau, cette hiérarchie. Vous êtes là pour être sérieux, pour être les plus sérieux, les plus forts, les excellents. C'est vraiment tous des termes qui sont hyper anxiogènes. Ça nous met un poids sur des jeunes comme ça. Et ça nous donne des valeurs qu'en fait, on n'a pas forcément. Moi, je ne voulais pas être excellent, je ne voulais pas être le meilleur, je ne voulais pas sauver le monde en étant ingénieur. Je ne savais pas très bien ce que je voulais, mais en tout cas, ce n'était clairement pas ça. Et donc, quand on m'a appelé pour faire ce discours, déjà, je trouvais ça génial que l'université... 10 ans après mes études, laisse une place à ce genre de discours. C'était un peu pour moi la revanche de ces discours que moi j'avais écoutés, de leur dire en fait, les discours que moi j'ai entendus, ils n'étaient pas vrais. c'est pas ces mots-là qui, en tout cas moi, m'ont aidé à être plus heureux. Et c'est là-dessus que je termine en leur disant de s'écouter eux-mêmes. C'est parce que chacun est différent. Et oui, certains auront envie... peut-être d'être plus compétitif, d'être excellent, mais peut-être pas en fait. Et c'est pas à quelqu'un d'extérieur, comme un prof, comme un politique, une pub, un voisin de palier, un compagnon, c'est pas à eux de nous dire comment va être ou devrait être notre vie. C'est nous, c'est que nous qui avons la solution en nous de savoir quelles sont nos valeurs. Comment on veut les appliquer, est-ce que l'argent c'est une valeur pour nous ou pas, est-ce que la réussite ostentatoire c'est une valeur pour nous ou pas, remettre tout ça en question et vraiment s'écouter, parce que à nouveau le système dans lequel on est, c'est pas une, ce que je vais dire c'est pas une opinion personnelle, c'est vraiment un fait, il ne marche plus, il ne nous rend plus heureux, tout prouve qu'aujourd'hui on est énormément à être malheureux dans ce système. Et j'ai vraiment eu cet élan de leur dire allez-y, construisez-en un autre. Ou en tout cas, n'écoutez pas ceux qui vous parlent encore de l'ancien modèle comme étant une solution vers le bonheur. Parce que déjà, vers le bonheur, non. Mais surtout, on est en train de le voir, on est en train de créer une catastrophe climatique aussi. Donc pour les humains, pour les vivants en général. Donc oui, remettez tout ça en question et tirez-en vos propres conclusions. Mais arrêtez en tout cas d'écouter les boomers qui vous disent que... ce système, il est génial, ça c'est sûr.
Et du coup, cet autre système, ce nouveau système, comment tu le verrais ? Elle ressemblerait à quoi, à la société idéale, selon toi ?
On emploie beaucoup le terme de transition. Et pour moi, le terme central dans tout ce mouvement de la transition, c'est le respect, je crois. On voit qu'on est une société qui devient de plus en plus en contestation par rapport à ça, déjà. Et pour moi, c'est extrêmement excitant de voir ça, et j'en fais partie, et j'incite et j'anime vraiment pour que ça continue, qu'il y ait cette relève, j'en parle beaucoup dans mon livre, de la relève qui n'est pas forcément jeune, hein, qui est dans tous les âges, dans tous les milieux, il y a des gens qui se lèvent pour dire on a besoin de plus de respect, il y a les hashtags qui demandent plus de respect pour tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs conditions. Il y a d'autres militants qui demandent plus de respect pour la planète, pour les animaux, pour les êtres vivants. Et puis, il y a toute une grande vague aussi de respect pour nous-mêmes, pour nos valeurs, pour qui nous sommes, pour l'être humain, tout ce qui est développement personnel, coach, psy, d'aide à la personne. C'est là parce qu'il y a un vrai problème par rapport à l'amour propre qu'on a chacun envers nous-mêmes. Donc, il y a vraiment ce respect, je pense, qu'il faut remettre... au centre de tout. Chaque société, je pense, dans leurs valeurs, dans leurs slogans, Et pas seulement du greenwashing qui reste au niveau des slogans pour vendre, des trucs verts, écolos, parce que c'est la mode, mais vraiment dans leurs valeurs, qu'ils aillent jusqu'au détail de leur empreinte carbone, de leur empreinte, de leur impact dans des mines à l'étranger, etc. Que l'on soit critique par rapport à soi et qu'on se dise, OK, est-ce qu'on est en train, dans notre façon de travailler, d'être respectueux envers tout ça et toutes ces personnes et toutes ces ressources.
Tu dis dans ton livre, avant de se lancer à corps perdu dans un travail qui nous prendra 8 heures par jour, la majeure partie de notre vie, mieux vaut se poser les bonnes questions. Alors la grande question, c'est comment se poser les bonnes questions, surtout quand on est jeune et qu'on ne nous incite pas, tu le disais, à se poser les bonnes questions à l'école. Donc comment nous, personnellement, on peut prendre des initiatives pour mettre le doigt sur ce qui nous plaît et utiliser ces 8 heures par jour pour faire des choses constructives qui nous animent?
Ouais, c'est une très bonne question. Je vais essayer d'être concis parce que on pourrait en parler pendant des heures. Mais donc pour faire court et un
tu
peu
peux
bateau,
on a...
ouais, tu couperas voilà. Au montage. Pour faire court et concis et un peu bateau, je dirais que le plus important c'est de se connaître soi-même et s'écouter. Voilà, toi t'es un bon exemple. On en parlait tout à l'heure. Tu as 22 ans, tu finis à peine tes études, mais tu avais cet élan de créer un podcast, d'écrire un livre, et puis tu l'as fait. Tu ne t'es pas posé de questions en te disant est-ce que c'est un métier ou pas, est-ce que j'ai le droit ou pas, est-ce que ça va plaire à je ne sais qui. Donc ça, c'est génial. On a des élans comme ça qui nous viennent du cœur, mais mon conseil, c'est de les prendre au sérieux. Et d'autant plus qu'ils sont dans la durée. Si c'est quelque chose que l'on sent qui vient depuis qu'on est tout petit, tu vois, moi je sais depuis que je suis tout petit, on en parlait au début, que je voulais écrire, dessiner, prendre des photos, créer quoi. Et c'est quelque chose qui revenait régulièrement. Chaque année, on me demandait s'il n'y avait pas de contraintes, qu'est-ce que tu aimerais être. Mais prendre ça au sérieux, ça ne veut pas dire que tout est possible, ça ne veut pas dire qu'on a une baguette magique, etc. Mais avec le temps, on serait vraiment surpris de ce qui est possible. Vraiment, moi, ça m'a pris 6 ans de passer. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Moi, je n'ai pas tout claqué, je n'ai pas tout réussi comme ça du jour au lendemain. Ça m'a pris 6 ans. C'est très long. Mais voilà, pour celui qui est passionné, qui a de la patience, qui a de la ténacité, la persévérance et la joie, ça se fait. Vraiment, presque tout est possible, je pense. Donc oui, s'écouter quels sont... ses joies, ses passions, mais aussi quelles sont ses blessures. Parce que pareil, pour le burn-out, c'est aussi des blessures et des choses qu'on ne supporte pas, mais qu'on ne prend pas au sérieux. Il y a des gens qui vont au travail, dans un travail qui ne correspond pas à leurs valeurs, et ça les mine, mais ils y vont quand même. Et ils ont cette blessure qui est récurrente, cette voix intérieure qui leur dit « ne va pas bosser parce que c'est une cata, ce job ». T'as un chef qui ne te respecte pas, ton impact dans la société, il est nul, voire il est nuisible. Donc prendre cette voie-là aussi au sérieux. Donc autant les passions que les blessures, vraiment les écouter, surtout si elles viennent de loin. C'est déjà pas mal comme, comme
tu disais,
début.
Tu parlais de cette notion de prendre le temps pour voir les résultats. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus difficile, je pense, aujourd'hui, parce qu'on est tellement... pousser à voir les résultats de suite, être dans la performance, dans la réalisation. Et en fait, il faut que demain, on sache déjà si oui ou non, ça peut marcher. Et donc, c'est dur, en fait, d'accepter de se dire « Ok, ça me plaît, j'ai envie d'en faire quelque chose, je ne sais pas où ça m'amène et je vais devoir attendre peut-être 6 ans pour voir les premiers résultats. » Il faut quand même avoir beaucoup confiance en soi et en la vie pour oser se détacher de cet aspect performance. Et pour se rapprocher de ce côté plus passion.
Oui, complètement. Mais je pense que ça fait partie de la transition dont on parlait. C'est de revenir à un temps long. On en parle beaucoup et c'est pour ça que souvent, cette transition, elle est liée très fort à la méditation, par exemple, à la contemplation de la nature, aux balades, à des choses qui prennent du temps, à faire de la permaculture pour voir qu'en fait, une plante, elle met super longtemps à grandir. Moi, ça m'a beaucoup aidé, cette analogie avec la nature, parce que c'est un projet qui, chez moi, grandissait. Un œuf qui a un poussin dedans, un œuf, on a l'impression qu'il ne se passe rien dedans pendant des semaines et des mois, quoi. Et on m'avait dit ça, en fait, il y a un œuf en toi, mais tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Et puis un jour, ça va éclore, mais il faut le temps. Il faut le temps. Et ce temps long, je pense qu'il est très... très important parce que le système lui-même nous a fait aussi croire à cette immédiateté de la réussite. Et on entend beaucoup ces success stories qu'on nous vend, des traders qui sont devenus riches du jour au lendemain, des chanteurs qui ont eu des millions d'écoutes du jour au lendemain. Mais ça, c'est parce que le système se nourrit de ça, de nous faire rêver pour essayer de nous faire rentrer dans cet acharnement et cette compétition. Mais parce que les médias pointent les projecteurs là-dessus.
Oui, ils alimentent aussi tout ça.
Oui, c'est comme ça les intéresse. Les médias vont pointer toutes leurs histoires sur ces success stories et beaucoup moins sur les histoires qui prennent 3, 4, 5 ans, qui vont lentement, mais qui vont sûrement. C'est des histoires de cœur qui prennent toute une vie. Moi, comme je dis, être heureux, ça prend toute une vie. Et donc... ça peut paraître un peu long, mais le bon côté, c'est que comme ça met toute une vie, ben, on a le temps. Et donc, on peut profiter du voyage, on peut se tromper, on peut recommencer, on peut tester. Moi, j'aurais pu me planter, puis revenir. Il n'y a aucun danger, vraiment. Moi, on me disait, mais enfin, comment est-ce que tu oses quitter cette carrière? Tu es bien placé, cadre sup. C'est presque comme si j'allais mourir, comme si j'allais sauter par la fenêtre, alors qu'en fait, il n'y a aucun danger. Aucun. Mes diplômes ne vont pas s'évaporer, mon expérience ne va pas s'évaporer. Donc, au pire, j'aurais eu une expérience totalement différente pendant un an ou deux, et puis je reviens. Et au mieux, c'est ce qui s'est passé, ça marche, et je continue, et ça fait 8 ans que ça marche, et ça m'a mené à faire d'autres choses que j'avais, que j'adorais faire, écrire ce livre, être conférencier maintenant.
Oui, c'est accepter aussi qu'on peut faire des erreurs. Mmh. Et ça, tu le dis. Donc, tu dis, personne ne m'a dit que je pouvais prendre le temps. Donc, on en parlait de cette notion du temps. Et qu'on a le droit à des essais, à des erreurs. Si tu devais parler à Pedro quand il avait 20 ans, tu lui dirais ça, qu'il a le droit aux erreurs aussi?
Ouais, je lui dirais surtout d'avoir moins peur, quoi. Ouais. Maintenant, je le dis, j'ai 43 ans et je suis passé par là. Après l'avoir fait, c'est plus simple. Mais c'est important de nous rendre compte qu'on a très peu aujourd'hui dans cette société ici. Le bon côté, j'ai dit beaucoup de mauvais côtés du système en place. Mais le bon côté de ça, c'est aussi qu'on a très peu de danger de mourir, en fait. On a presque éradiqué le danger de mourir. C'est très, très rare. Et d'ailleurs, on voit bien à quel point ça nous fait flipper tous en ce moment le risque de la mort. Mais voilà, c'est très. On a des filets sociaux, on a des filets d'entraide solidaire. Il y a très peu de dangers mortels. Donc voilà, arrêtons de stresser à ce point-là et disons qu'en fait, voilà, il y a des risques plus ou moins modérés qu'on peut prendre pour et qui valent la peine en fait. Parce que au bout du compte, ces risques-là, en contrepartie, on a une vraie joie possible et quelque chose qui nous donne la flamme, qui nous donne la niaque, qui fait en sorte que notre vie vaut la peine d'être vécue.
Et donc, on en vient à cette fameuse question du bonheur. C'est quoi pour toi? Comment tu le définirais?
Le bonheur, pour moi, c'est une définition très personnelle et assez difficile à expliquer. C'est quelque chose que l'on ne peut ressentir qu'en regardant en arrière. C'est pour ça que je dis que ça prend toute une vie. Et c'est quelque chose qui, moi, me renvoie à lorsque j'ai vu mourir mon père de façon très brutale. Et je me suis demandé, il est mort d'un accident domestique comme ça, très brutalement, très soudainement. Et je me suis dit, s'il avait eu le temps de se retourner sur sa vie, est-ce qu'il aurait été heureux de mourir comme ça à ce moment-là? Et donc, moi, c'est une image qui vit avec moi depuis ce moment-là. C'est vraiment à ce moment-ci de ma vie, si je me retournais toute ma vie sur tout ce que j'ai fait, est-ce que ce serait le bonheur? Est-ce que je pourrais dire sur mon lit de mort juste avant de mourir, est-ce que je pourrais dire « Ok, j'ai été heureux ». C'est quelque chose qui est très, très difficile à pouvoir répondre au jour le jour.
Aujourd'hui, pour ça que... tu pourrais le dire
Ah ouais, si je mourais aujourd'hui, ouais, moi, je suis comblé, c'est sûr. Ouais. Parce que... la bonne nouvelle, c'est que, ok, le bonheur, c'est quelque chose qui est très loin, qui est pour moi une espèce d'objectif théorique, comme ça, au bout du chemin. Par contre, la joie, Frédéric Lenoir aime beaucoup en parler.
Je l'ai reçu aussi sur le podcast, Frédéric Lenoir.
Ah ouais, génial. Et la joie, par contre, elle est présente à partir du moment où on se met en chemin vers ce bonheur théorique. La joie apparaît. Pour moi, la joie, c'est vraiment la boussole intérieure que l'on a pour nous dire, tu es sur la bonne voie. Donc, si tu as la joie quand tu fais tes trucs... te poses pas d'autres questions, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Et ça veut dire que au bout de ta vie, quand tu auras fait tout ce chemin-là, ça veut dire que tu pourras te retourner en disant c'était un chemin du bonheur. Ouais.
Est-ce qu'il y a une citation qui te plaît particulièrement et que tu aimerais nous partager aujourd'hui ?
J'aime beaucoup un proverbe africain qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Parce que du coup, on en revient au lien aux autres. Et le fait qu'en fait, on est tous des enfants qui avons besoin de tout un village autour de nous qui soit bienveillant et qui nous aide à grandir. Et donc moi, j'aime toujours ajouter à ce proverbe le fait que on a besoin aussi de tout un village pour élever un adulte. Parce qu'on a l'impression qu'une fois qu'on a élevé l'enfant, que l'adulte, il a tout pigé, il connaît tout, il a toutes les réponses. Et moi, j'arrête pas de leur dire à mes enfants que moi-même, je comprends rien. Tu vois, que je suis paumé, que je me pose 1000 questions, que c'est un monde vraiment complexe et qu'on n'a vraiment pas du tout les réponses en tant qu'adulte. Et du coup, qu'il ne faut pas du tout hésiter à demander de l'aide, à s'entourer, à avoir des gens qui sont bienveillants, avec qui on peut parler, des psys, des coachs, des bons amis avec qui on peut parler de nos problèmes, de nos questions, tout ça. Donc pour moi, je disais tout à l'heure que tout commence en nous, d'écouter sa voix, de faire cette introspection, mais c'est pas du tout un exercice égocentrique. Tu vois, cette introspection, c'est pas du tout égoïste, c'est vraiment quelque chose qui part de l'intérieur, de nous-mêmes, mais qui va vers les autres. Après, cet élan-là que l'on a en nous, il nous aide à nous rendre compte qu'en fait, ce que l'on veut vraiment, c'est avoir un impact autour de nous, notre famille, puis nos voisins, et puis en fait notre ville, et en fait tous nos semblables. En fait, on se rend compte assez rapidement lorsqu'on prend le temps et lorsqu'on parle aux gens quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire dans leur travail. C'est d'avoir un impact, c'est d'avoir un impact social, d'être solidaire, d'être positif pour la société dans laquelle on vit, parce que je pense que c'est simple, tout simplement quelque chose qu'on a tous en nous, ce lien-là.
Pedro, tu nous as déjà donné beaucoup de conseils dans cet épisode, mais si tu devais en retenir un à partager aux jeunes d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu leur dirais ?
Je leur dirais de continuer à remettre en question toutes les certitudes qu'on leur a vendues, que ce soit des pubs, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des profs, des grands philosophes, toutes ces personnes qui viennent de l'ancien monde, que tout prouve qu'ils continuent à vendre un modèle qui ne marche pas et qui pourtant, dans les médias, et dans les universités, et dans les magazines, et dans les partis politiques, pourtant garde encore cette aura de crédibilité. Et donc qu'on écoute, qu'on encense, qu'on partage. Et moi j'ai envie de dire aux jeunes, vraiment remettez en question tout ce que vous écoutez. Surtout si ça vient, si ça vient du passé, de l'ancien monde, tous ces messages de compétition, de la pas du gain, d'accumulation de biens matériels, etc. Quelles en soient les conséquences, qu'ils remettent en question vraiment tout ça, qu'ils n'aient pas du tout peur de le remettre en question, parce que souvent on entend aujourd'hui on ne peut plus rien dire, ces jeunes aujourd'hui ils respectent rien. Mais je trouve que c'est très bien en fait de tout remettre en question. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait des jeunes aujourd'hui qui disent non, vous ne pouvez pas tout dire, on ne peut plus avoir des blagues racistes, on ne peut plus avoir des blagues sexistes, on ne peut plus maltraiter des animaux, je suis désolé, c'est comme ça, et si vous n'êtes pas content, il va falloir s'y faire, parce que le monde qui vient en transition, il est plus respectueux, je suis désolé. Donc je les encourage à continuer à remettre tout ça en question.
Et génial, c'est très bien. Merveilleux. Mais merci beaucoup, Pedro.
Merci à toi, c'était avec plaisir.
Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvel Œil, retrouve-moi sur le site internet Nouvel Œil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvel Œil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement, tu peux le faire directement via Instagram sur la page Nouvel Œil. Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple Podcasts ou iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Si on en est là aujourd'hui, si Nouvelle Aile grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.